Vous écoutez
RMC.
RMC, Estelle Midi.
Le zapping RMC.
Le meilleur des RMC ces dernières 24 heures. Et on va démarrer avec Apolline Matin ce matin. Le Black Friday, c'est aujourd'hui. Est-il un rempart contre l'inflation? C'est aujourd'hui la journée phare de cette opération de promotion chez la quasi-totalité des commerçants. Chaque année, les Français sont de plus en plus nombreux à en profiter, mais certains résistent. À l'image de Patrick, auditeur RMC, qui témoigne ce matin.
Vous y croyez, vous, au Black Friday?
Non, j'y crois pas du tout. Non.
C'est comme les citrouilles qui se transforment en carrosse.
Et voilà, exactement. Ouais.
D'accord. Non, mais
en fait, parce que en fait, j'ai adopté un petit peu le principe de sobriété, mine de rien. Ça fait quelques années déjà, et je consomme ce dont j'ai besoin au moment où j'en ai besoin. Je vais pas chercher midi à 14h, essayer d'avoir une télé un petit peu plus grande, d'essayer d'avoir un téléphone un petit peu plus puissant, d'essayer d'avoir un ordinateur. Non.
J'imagine que c'est pour des raisons à la fois économiques, mais aussi c'est devenu presque une philosophie de vie.
Non, oui. Bon, je gagne assez bien ma vie, donc j'ai pas de problème économique, mais c'est plus une philosophie de vie, en effet, ouais. Je pense que, voilà, quoi, il faut
et aujourd'hui...
la sobriété.
Eh bien, sachez que je suis comme Patrick. C'est la première fois que je n'achète rien au Black Friday cette année, Périco.
Ça me rassure, ma chère Estelle.
Mais moi aussi.
J'étais inquiet l'an dernier parce que vous êtes très frais.
Ah si, j'ai acheté un truc, mais qui n'était pas soldé.
Non, mais est-ce que.
Alors, ça, c'est la loose.
Oui, ça va, c'est con.
C'est le snobisme, va se pousser à son maximum.
Ben non, mais je croyais que c'était soldé, ça ne l'était pas. Donc, du coup, j'ai rien acheté. Bon.
Est-ce qu'on conviendra que cette opération satanique n'a qu'un seul but, c'est de faire rentrer du fric dans les caisses de certains. C'est tout.
Bah, du tout, c'est pour en faire gagner.
Mais c'est pas vrai. Est-ce qu'elle tombait pas dans le panneau, je vous en supplie.
Mais si votre perceuse, elle est à 100 euros et qu'elle est à 50.
Mais pourquoi le Friday, toute l'année, il y a matière à trouver une solution pour remplacer un produit. Là, c'est une incitation. C'est une incitation. C'est un conditionnement à la consommation achetée.
Mais des gens se sont privés pendant 2 mois parce qu'ils savaient qu'il y avait Black Friday. Ils ont attendu cette opération promotionnelle. C'est comme les soldes.
C'est la pire version du consumérisme financier.
Non, c'est les soldes.
C'est inhumain. Le Black Friday, c'est la négation de l'humanité. Voilà. Et ça fait appel aux instincts les plus bas du consommateur, avili par un marché qui conditionne.
Il cherche le bon prix.
Mais c'est horrible, ça devrait être interdit. Les auteurs devraient être poursuivis en justice.
Ils ne faisons plus de
solde. C'est asocial, c'est immoral.
Pas du tout.
C'est anti-républicain et antidémocratique.
Voilà. Et enfin, Périco, vous avez, par exemple, certains de nos auditeurs qui se disent, par exemple, je dis n'importe quoi, mais j'ai besoin d'une télé. Cette télé, d'habitude, elle vaut 600 euros. C'est très cher, je n'ai pas les moyens de me la payer. Mais si vous savez que dans un mois au Black Friday, elle voudra plus 600 euros, mais 300 euros. Est-ce que c'est mal d'attendre le Black Friday pour gagner 300 euros? Bah, ça, je ne crois pas.
Mais ça s'appelle la période des soldes. Alors, on peut l'amplifier, l'aménager.
Mais ça en fait une de plus.
Mais très bien. Non, mais attendez. Bah, si. Mais c'est pas fait pour ça. Bah, c'est fait pour écouler des stocks de producteurs qui ont besoin de faire du fric.
C'est comme les soldes. Voilà, pareil.
C'est comme les foires au vin. C'est un attrape-couillon sans nom.
Bah non, c'est vachement bien.
Au début, c'était des déstockages de grands négociants. Et comme ça a marché, et comme les moutons de Panurge viennent par troupeau entier se vautrer là-dedans, et vas-y, je te fais des foires au vin. Il y en a pas plus davantage que nos années. Et là, le Friday, c'est pour le troupeau de moutons qui est là, bellement, et on va acheter le bref.
Je pense que Périco s'est reconverti dans l'élevage de chevaux parce qu'il passe son temps à monter sur ses grands chevaux aujourd'hui,
oui, c'est
impressionnant. Mais après, sur le fond, je suis assez d'accord.
C'est la société.
Vous n'avez rien acheté, Laurent?
Non, moi, j'ai rien acheté. En fait, pour ce que ça marche, il faudrait que les gens prennent effectivement, fassent l'effort d'aller voir la veille le prix. Pour comparer avec le prix
marché, parce que
je pense que c'est une minorité de gens qui font ça, que beaucoup se font arnaquer par des affichages bidons en disant ouais on a baissé alors qu'en fait on n'a rien baissé du tout. Et ensuite il y a aussi, je pense aussi, beaucoup de consommation d'impulsion. On dit ah waouh, là il y a moins 40% là-dessus, c'est génial, j'achète. On réfléchit après pour savoir si on a besoin.
Comme les soldes,
c'est pour ça que moi j'évite d'aller faire des courses toujours des soldes, parce que je sais que je vais acheter des trucs à la con dont j'ai pas vraiment besoin.
Pierre-Edouard, vous avez acheté un truc?
Ben non, c'est en fait moi je rêverais d'un Black Friday plutôt tourné whisky, livres ou cigares
les livres sont soldés
culturel.
Aussi
au
Black Friday.
Oui, mais pareil sur les sites internet, à chaque fois qu'il y a des soldes, c'est rarement ce que je cherche. Après quand j'entends Périco, j'ai d'un seul coup des fois envie d'être pour, alors qu'en fait je vais pas y arriver, donc ce serait vraiment du blabla pur, ce serait vraiment
Black Friday sur la viande normande.
Mais
Black Friday côte de bœuf, côte de bœuf normande.
L'exemple qu'on va toujours trouver de dire quelqu'un qui a attendu et qui a acheté deux fois moins cher ce dont il avait besoin. Si on s'arrête là, c'est toujours bien. Sauf que là où je rejoins ce qui vient d'être dit, effectivement, c'est évidemment une incitation à la surconsommation. Vous qui étiez jusqu'en 2021 une cliente émérite du Black Friday,
vous étiez soumise au Black Friday.
Je revendique. J'ai dit émérite. N'avez-vous acheté que par en vous disant, oh, je l'aurais payé plus cher il y a un mois, je fais une belle économie? Ou avez-vous acheté des trucs en disant, oh, bah tiens, ça c'est pas mal, ça s'appelait. Alors après, l'achat d'impulsion n'est pas nécessairement mauvais. On a le droit d'acheter des trucs parce que juste on a envie, ou quand on est collectionneur, on n'achète pas que des choses qu'on a besoin. Le plaisir est un droit, je veux dire, c'est pas non plus scandaleux. Mais là, on pousse quand même à la consommation, Et dire, en moment de sobriété qui devrait être heureuse, c'est pas forcément particulièrement positif. Et en plus, on incite aussi des gens qui ont peu à dépenser encore plus parce que s'ils achètent quatre trucs qui valent deux fois moins cher, in fine, ils ont dépensé plus d'argent à la fin qu'au début.
C'est vrai, vous avez raison, l'année dernière j'ai acheté une yaourtière à moins 70% et c'est vrai que
c'est un piège à pauvres.
Je ne vous cache pas que
elle est neuve.
J'ai essayé de faire des yaourts, ça a été une catastrophe, donc elle n'a servi qu'une fois. Donc au final, je ne vous cache pas que ça m'a coûté plus cher, enfin ça m'a coûté cher.
C'est un piège
même à moins 70.
C'est un piège à
pauvres. C'est pour ça que cette année je n'ai rien acheté.
C'est un piège à pauvres. C'est un piège à pauvres.
Et dans la cave, il y a une yaourtière neuve.
Qui a servi une fois. Apolline Matin ce matin, ça va vous plaire. Tiens, notre école est-elle à la dérive? L'Éducation nationale dévoile aujourd'hui que 20% des collégiens sont en très grande difficulté à l'entrée en 6e et le corps professoral se sent bien impuissant selon Benjamin Grandonneur. Il est directeur d'établissement à Lyon.
Les enfants n'ont pas droit à toutes les heures d'école auxquelles ils ont droit parce qu'on manque de remplaçants. On avait des dispositifs d'aide aux élèves les plus en difficulté qui sont fortement abîmés. Donc on est tout le temps en train de choisir les élèves qui vont être aidés et ceux qui ne vont pas pouvoir l'être.
C'est dramatique, Pierrico, ce qui arrive à notre école.
C'est dramatique pour le pays, pour la société. L'école, c'est le fondement de notre société, de l'État, de la nation. Voilà. Et si la France a été une grande puissance à tous les points de vue, et un pays généreux, humain et performant, c'est parce que l'école de la République, et personne ne me démentira ici, a produit les gens formidables et les citoyens formidables que l'on a été, que nous sommes peut-être nous. Et là, cette machine essentielle et exemplaire dans l'histoire du monde, voilà, tout d'un coup est en panne. Il n'y a pas qu'elle, vous allez me dire, aussi les hôpitaux qui étaient... Mais en tout cas, que l'école fabrique, je prends toujours le titre de Jean-Paul Brialy, la fabrique du crétin, et que ce pourcentage qui était de 2, 3, 4, soit à 20%, 20% qui savent pas lire, et je les côtoie, je les rencontre, y compris dans les amis, voilà, dans des milieux assez proches, je vois l'analphabétisme, l'ignorance, l'inculture, dans des classes, c'est-à-dire que la caricature, c'est quoi? Le bac aujourd'hui, c'est le niveau. Le bac aujourd'hui, quasiment au niveau du certificat d'études il y a 30 ans. C'est quand même terrifiant. Et ces gens-là seront demain, ces pauvres gamins et pauvres gamines, ils seront aux commandes de la société, ils seront responsables, ils seront acteurs, c'est deux
dans des points. Peut-être pas ces 20%.
Mais si, parce qu'il y aura qu'eux.
Il reste 80 autres.
Ils seront forcément à un poste. Ou alors chômeurs déclarés.
Après, il y a des enfants qui sont pas très bons à l'école et qui peuvent faire votre métier.
En fait, la société s'adapte. Oui, mais toute la société s'abaisse pour être au niveau. Et aujourd'hui, on corrige pas les fautes. Vous avez des gens de 30, 35 qui vous envoient des mots, des lettres, des notes. C'est pas en français, c'est pas écrit. Et qu'est-ce que vous dit la société? On ferme les yeux, c'est pas grave. Le principal, c'est que tu comprennes ce qu'ils veulent dire. Voilà, on en est. Et il y a les erreurs de calcul et les erreurs de...
Et est-ce qu'effectivement, on ferme trop les yeux? C'est vrai que, on reçoit tous même des CV, des lettres de motivation. Je reçois des lettres de motivation qui sont truffées de fautes d'orthographe. Alors après, on peut faire des fautes d'orthographe. Moi, ça arrive, mais normalement, tu la fais relire, une lettre de motivation. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a un peu, il y a quand même du laisser-aller, quoi.
Sur la pratique de l'orthographe, je suis régulièrement un peu sûr d'employeur. Et effectivement, j'ai envie de dire, notamment dans la lettre de motivation et même dans les CV, on finit par le mettre un peu de côté parce que des fois, sinon, on vrai personne.
Faut pas en parler.
Après,
des
trucs. Pour moi, il y a deux. Pour moi, il y a deux. Et alors, l'écriture texto, là, c'est terrible. Mais oui. Et pour moi, il y a deux choses. Il y a effectivement un manque. Je ne pense pas que intrinsèquement, si vous me pardonnez ce mot, les professeurs ou les jeunes soient devenus plus bêtes ou moins bons depuis 20 ans.
Non.
Il y a d'une part un manque de moyens, y compris de moyens humains et de moyens de temps. Et il y a aussi un vrai problème, c'est la capacité de l'école à s'adapter à l'ensemble de ses élèves. Alors, ça veut pas dire que dans une classe de 30, il faut 30 enseignants pour s'adapter à chacun des élèves. Mais moi, par exemple, ma fille est à l'école laïque classique, ça se passe plutôt bien, elle apprend, etc. Et j'ai pas encore, je la vois dans son école, c'est une école de normale, alors on n'est ni dans un quartier difficile, ni à Neuilly-sur-Seine, ça va effectivement plutôt bien. Après, on voit bien aujourd'hui que on a une situation avec des enfants avec un certain nombre de difficultés. Il y a aussi les problématiques de ce qui se passe à la maison, évidemment, des enfants où il n'y a pas un livre chez eux, où il n'y a pas un seul accès à la lecture chez eux, de ceux qui l'ont. Là aussi, on voit des différences. Donc ça, et là, pour le coup, ce n'est pas la faute de l'école, sauf qu'il faudrait qu'elle soit en capacité, non pas de gérer l'absence ou la présence de livres, mais d'en gérer un peu les conséquences. Donc, il y a aussi une capacité, y compris aussi en termes pédagogiques, comment on s'adapte et comment on fait effectivement monter tous les élèves
les
dans le
programme.
Parce qu'en demeurant, ne pas être totalement bon à l'école n'implique pas nécessairement de ne pas réussir dans sa vie, de ne pas avoir un bon métier, de ne pas avoir sa place dans la société.
Les programmes.
Je dis ça, moi, j'ai jamais eu de problème à l'école, j'ai un bac plus 5, donc je veux dire, je suis un bon produit de l'école scolaire et je me suis très bien habitué à l'école université, donc moi, j'ai pas eu de problème. Mais c'est pas le cas de tout le monde.
Exactement.
Beaucoup d'enfants sont rétifs, que ce soit pour des raisons pathologiques, des raisons thérapeutiques, des raisons sociales.
Les programmes scolaires. Les programmes scolaires, ceux qui se sont effondrés. Les pédagogues ont mis en place des programmes scolaires qui sont des machines à abêtir la jeunesse. Enfin, c'est effrayant. On déculturise, que ce soit l'histoire, tout, les maths, tout est détruit, tout est décomposé pour s'aligner sur le paramètre le plus bas.
Mais le français.
Et c'est une doctrine à l'ééducation nationale.
Mais moi, je me suis arraché les cheveux devant je sais, mon fils devait être en quoi? En quatrième. Mais à un moment, j'ai dit, tu sais quoi? Mais t'auras zéro et je m'en fous. Je comprenais rien. C'était sur les prépositions, des trucs que nous, on n'avait même pas appris.
Bien sûr.
Mais il y avait genre 10 prépositions différentes entre. Mais vous ne comptez. Mais je vous jure, il fallait avoir fait l'ENA. Ouais. Et surtout, tu te dis, mais à quoi ça va leur servir, en fait? Est-ce qu'il ne ferait pas mieux d'apprendre des textes?
La grammaire. La grammaire.
Mais sans avoir les. J'ai des trucs qui ne leur serviront jamais. En fait, tout est.
Oui. Enfin, alors après, le problème de la grammaire, c'est que le prof de la grammaire, c'est que c'est une règle. Non, ça, alors,
d'accord,
ça
mais
peut évoluer. Non, mais
bah, tu
ça prend ou ça. J'irais. C'est oui, une règle, c'est comme en informatique.
Et bah, mais,
il y a un plus un, ça fait non, deux,
mais
parce
mais
qu'on a décidé.
Sauf qu'il
y a des méthodes.
C'est pas à nous à le décider. Ce n'est pas à nous à le décider.
Je suis d'accord. La grammaire, il y a un moment, ça s'apprend.
On se plaint que les élèves ne sachent pas lire de plus en plus tard, mais on continue à enseigner avec des méthodes qui, pour beaucoup, sont influencées par la méthode globale qui a fait l'épreuve de son caractère désastreux.
Et donc,
Non, je suis désolé. Des méthodes dérivées d'eux, des méthodes imprégnées d'eux. Voilà. Aujourd'hui, c'est encore considéré comme ringard d'enseigner la lecture, comme on l'enseignait quand moi j'étais petit, qui est pourtant des méthodes qu'on fait leur preuve. Après, il ne faut pas oublier non plus, dans cette difficulté de l'apprentissage du français, excusez-moi si je ne dis pas ça dans un esprit polémique, mais il y a le poids de l'immigration. C'est-à-dire quand vous avez des classes où il y a beaucoup d'enfants d'origines diverses dont les parents ne parlent pas français à la maison.
C'est de plus en plus rare.
Non, c'est pas de plus en plus rare, au contraire, Estelle, c'est de plus en plus fréquent.
Non, mais enfin, je veux dire, avant, vous aviez dans cette génération, effectivement, qui était arrivée en France sans savoir parler français.
Enfin, ils étaient disséminés sur le territoire. Là, le fait qu'on les ghettoise, ils sont majoritaires.
Vous savez que l'immigration continue, qu'elle n'est pas arrêtée.
Oui, non, mais merci.
Il y a 200 000 personnes qui arrivent tous les ans. Au minimum, légalement, rien que légalement. Donc non, il y a des, excusez-moi, mais les classes où il n'y a pas, l'apprentissage de la langue devient difficile parce qu'il y a trop de nationalités qu'on n'arrive pas à gérer. Je suis désolé, c'est quelque chose de plus en plus présent.